Merci beaucoup. Vous avez bien tenu les horaires, c'est bien. Voilà, nous allons maintenant avoir une heure pour échanger donc avec les différents intervenants, y compris avec les deux personnes qui viennent de vous être présentées, s'il y a des questions qui les concernent. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, vous avez des micros. Juste pour lancer la discussion, on a l'impression que c'est assez récent cette prise de conscience quand même de ce cancer avec le dépistage. Qui, depuis combien de temps par exemple le dépistage est-il davantage généralisé?
Donc le dépistage dans le département de la Vienne, il a commencé au mois de septembre-octobre pour les premières invitations, donc c'est tout nouveau pour c'est nous. Ça a été généralisé à l'ensemble de la France, ça sera généralisé à l'ensemble de la France d'ici la fin d'année, donc il reste encore un ou deux départements qui n'ont pas démarré. Il y avait une vingtaine de départements qui, à titre expérimental, avaient commencé déjà depuis 4-5 ans, mais la généralisation, ça a été sur l'année 2008.
Est-ce que ça veut dire que c'est le nombre de cancers a beaucoup augmenté, la fréquence de ce cancer a augmenté, ou à quoi c'est dû qu'on en parle beaucoup maintenant?
On ne peut pas dire que la fréquence a augmenté, c'est qu'en fait, on a mieux ciblé les populations à risque, hein, et grâce à cela, et donc on repart sur dépistage, prévention.
Juste pourquoi 74 et pas 75 ou...
Là, vous me posez une colle, mais je pense que c'est 75. Les premières coloscopies, Thierry, 74,
non, enfin, le problème, c'est... Non, ça c'est pour le dépistage.
Pardon, 74 ans.
Non, mais...
Ah, excusez-moi.
Non, mais c'est pour le dépistage, hein, il faut toujours... un dépistage de masse, ce sont des... Monsieur Cos, pour en parler mieux que moi, mais ça s'intéresse à des millions de personnes en France. Il faut qu'il soit, entre guillemets, le plus rentable possible. Déjà, on va savoir que 50% des gens à qui on va le proposer vont répondre. Et parmi ces 50%, il faut qu'on ait à retrouver le plus d'adénomes et de cancers possibles. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ce dépistage. Donc, il a bien fallu choisir une population cible. Et celle qui nous semblait la plus intéressante, c'est entre 50 et 74 ans. Parce qu'avant 50 ans, il y a peu de chances de trouver des lésions en l'absence de symptômes. Et après 74 ans, il y a beaucoup de gens qui ont d'autres pathologies qui rendent difficile la prise en charge d'un cancer, même si on le trouvait.
Oui, donc je rajouterais deux choses. D'une part, on a pris les mêmes tranches d'âge que pour le dépistage du cancer du sein, pour des raisons pratiques qu'on comprend bien. Et puis, on estime aussi que si la personne s'est fait suivre régulièrement entre l'âge de 50 et 74 ans, on vous a, je ne sais plus si on l'a dit, mais il faut une dizaine d'années pour passer du début du polype au stade du cancer. Si la personne s'est fait suivre régulièrement, on peut penser qu'elle a déjà beaucoup de chances d'avoir été détectée avant l'âge de 74 ans.
Une petite précision, ça ne veut pas dire qu'on n'opérera pas des gens qui ont plus de 74 ans, hein, qui ont une tube. Je crois que là, on continue à les prendre en charge, et d'autant plus que la population vieillit et que donc on est amené à le faire.
On n'en doutait pas, hein, heureusement.
Et donc, pour le sein comme pour le colorectal, à partir de 74 ans, le choix des prescriptions, des examens, etc., est laissé à l'initiative du médecin traitant de la personne.
Juste, j'en profite pour vous dire qu'à la sortie, vous trouverez sur la table des documents justement qui vous montreront l'intérêt du dépistage pour se protéger du cancer colorectal. Hein. Donc, ce sont des documents de l'Institut national du cancer qui sont à votre disposition à la sortie, qui ne doivent pas être dans votre dossier, qui est pourtant complet quand même. Hein. Vous avez des questions? Donc, on a dit... 10 ans à peu près entre le moment où on a vu le polype bénin et le moment où le cancer est déclaré. Donc, mais ça veut dire que pendant ces 10 années-là, finalement, il n'y a pas ou peu de symptômes. En fait, c'est ça qui est assez inquiétant. En fait, si j'ai bien suivi, c'est que on peut très bien vivre avec sans du tout ressentir le moindre mal.
Oui. Alors, il y a des fois, les gens qui, dans leur malheur, quand ils sont traités, ont de la chance, c'est les gens qui sont sous anticoagulants. On a beaucoup de patients, de gens sous anticoagulants avec les problèmes cardiovasculaires. Et des fois, quand il y a des anticoagulants ou un petit surdosage, il y a un petit saignement et c'est un polype qui est découvert lors du saignement.
Allez-y, hein, parce que je ne vais pas parler toute la soirée. Hein. Vous avez vu, on a vu qu'il y avait l'importance de l'alimentation hein, qui rentrait en ligne de compte dans nos pays riches. Est-ce que une fois qu'on est atteint, est-ce que là il y a un régime particulier, on a le cancer, comment on vit avec?
Ça c'est difficile à répondre. Je crois que non, on ne pourra pas imposer de régime aux gens à partir du moment où ils ont eu le cancer. Après, oui, s'il y a eu, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que Jean-Pierre Richer n'est pas rentré dans les détails. Après, il y a des résections digestives qui font qu'on est obligé que les gens suivent un certain régime. Et ça, c'est plutôt dû à l'opération qu'au problème du cancer ou à la réapparition du cancer.
D'accord. Peut-être on pourrait parler un petit peu de la consultation d'annonce que vous avez évoquée tout à l'heure.
Oui, la consultation d'annonce, c'est passionnant.
C'est quelque chose qui est assez spécifique à Poitiers ou
Non, ça se développe dans d'autres hôpitaux, mais nous sommes en avance. On doit le reconnaître. Alors, qu'est-ce que la consultation d'annonce? Ça correspond au fait que maintenant, on ne prend plus les gens pour des imbéciles. Et ça, c'est
ça
important.
Ça veut dire qu'avant, on les prenait pour des imbéciles.
Un peu. Je vais être provocateur. Bon, moi, qui suis plus tout jeune, j'ai quand même connu la période où on ne disait pas au patient qu'il avait un cancer. Il y a 30 ou 40 ans, on serait bien gardé de lui dire. Alors, la femme était au courant, les enfants étaient au courant, et puis, je dis la femme, je ne vois pas pourquoi, ça pouvait être l'homme. Et puis, le patient se dégradait. Alors, ah ben, comment ça? Oh ben non, c'est pas grave et tout. Alors, le gars disait de temps en temps, ben, j'ai perdu 30 kilos. Ah, ben non, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a fini ça. Ça, c'est fini depuis plusieurs années. Et la deuxième chose, c'est que c'est jamais facile pour un médecin d'annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer. Parce que autrefois, quand les médecins disaient rien, ils se protégeaient aussi. Ils n'avaient pas à faire l'effort de dire « Madame, monsieur, vous avez un cancer ». Donc, petit à petit, il est apparu nécessaire, et on prendra l'avis d'Isabelle après, d'aider, en fait, le médecin ou le chirurgien pour faire l'annonce. Alors, pourquoi c'est souvent le chirurgien? Bien, parce que, souvent, quand le médecin traitant le voit, il a demandé des examens. Quand le gastro-entérologue fait l'endoscopie, souvent, il sait que ça va être un cancer. Mais, en fait, il va attendre les examens, les résultats anatomopathologiques. Donc, en fait, c'est souvent le chirurgien qui va être amené parce qu'il a tout en main pour faire cette annonce. Donc, il va se faire aider dans sa prise en charge par une infirmière. Et donc, quand on va recevoir le patient et lui annoncer le diagnostic, on va lui présenter cette infirmière. Donc, il va être une infirmière de consultation d'annonce. Et c'est très important. Parce que les chirurgiens sont en général quelquefois pressés, mais enfin, on fait de gros efforts. Là, actuellement, on prend du temps.
C'est vrai.
Et on prend du temps, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la famille ou le patient, quand il va se retrouver un petit peu tout seul, on va lui mettre un tel fatras d'informations, avec d'abord un coup de massue, puis après on essaie de lui expliquer ce qu'on va lui faire, comme vous a montré Jean-Pierre. On va vous enlever telle partie du corps, faire ça, faire ça. Et il va se poser des questions. Et cette infirmière va être son référent. C'est-à-dire qu'il aura les coordonnées de cette infirmière. D'abord, elle le reverra en consultation en dehors de nous. Et dès qu'il va se poser une question, il va pouvoir joindre cette infirmière. Et puis, je m'arrête là, Isabelle. Allez-y.
Oui, en effet, M. Cartier nous a demandé il y a quelques mois maintenant, on a 7 mois de recul, de mettre en place ensemble une consultation d'annonce. Alors, cette consultation d'annonce, c'était le souhait des chirurgiens. Et c'était, c'est vrai, aussi le souhait d'un grand nombre d'infirmières qui ont travaillé pendant de nombreuses années dans ce service. Alors, en effet, nous sommes présents lors de l'annonce de ce cancer. Nous sommes à côté du chirurgien et nous sommes là pour observer le patient qui va recevoir ce lourd message. Nous sommes donc observatrices. Le chirurgien explique la situation clairement. Et nous sommes là pour, dans un deuxième temps, reprendre, réexpliquer avec des mots plus simples, en prenant en compte le patient lui-même, en prenant en compte ses capacités pour comprendre. Donc, le premier temps, c'est le chirurgien, l'infirmière et le patient. Nous proposons au patient de le revoir quelques jours après, on va dire 2 à 2 jours à 7 jours. Bien évidemment, nous lui proposons, nous ne lui imposons pas ce rendez-vous. Nous reprenons ensemble, nous essayons de détecter des problèmes sociaux, des problèmes, bon, des problèmes de compréhension certes, mais des problèmes sociaux, des difficultés à vivre la maladie, la présence d'enfants, de jeunes enfants, etc. Après, bon, donc ça, là on a 7 mois de recul. Je pense pouvoir dire sans prétention que c'est un plus. Moi, je suis très, très. J'ai travaillé 15 ans en viscérale avant d'arriver à la consultation. Et je crois que nous le devions aux patients d'être présents, de les accompagner dans ce long parcours. Monsieur Richer disait on va se voir pendant des années. Et je crois qu'il se crée des liens qui commencent dès le départ, qui vont s'entretenir à raison de tous les 3 mois. Et sincèrement, les patients ne nous regardent pas de la même façon. Je pense que les chirurgiens ici présents peuvent le dire aussi. Ils nous téléphonent énormément pour des conseils, pour des réexplications, pour des précisions sur l'hospitalisation. Alors on a encore encore beaucoup de choses à faire. Avoir plus de contact avec nos collègues à l'extérieur, les infirmières à domicile, etc. Mais on travaille également avec des collègues que nous, on appelle les soins de support, donc les stomathérapeutes. Donc je pense qu'on fait un travail d'équipe, le chirurgien, l'infirmière, la consultation d'annonce, l'infirmière dans le service, et ça c'est très important, nos collègues diététiciennes, toute une équipe qui gravite autour du malade, et c'est une longue histoire. Et je crois que les patients en sont contents. Voilà.
Pour beaucoup de patients, me semble-t-il, enfin, c'est ma vision, c'est la peur résulte de la méconnaissance des choses pour beaucoup. Et le fait est que les explications qui vont être données ou les contacts qui vont être pris après, en dehors de la consultation avec l'opérateur, avec le médecin qui est en charge du dossier, fait que lorsque le patient arrive le jour de l'opération, par exemple, il a bien compris, dans la très grande majorité des cas, l'ensemble des choses qu'il va subir ou qui vont lui être proposées. Et il est beaucoup plus apaisé, globalement. Et en fait, cette méconnaissance est levée par des discours, alors différents, évidemment, techniques parfois, et des discours beaucoup plus proches, avec des mots que vous m'avez repris à juste titre tout à l'heure, des mots qui sont plus communs, qui sont plus habituels. Et ça, c'est vrai que cette relation et ce lien qui va durer après apaisent beaucoup des patients au moment de l'hospitalisation.
Effectivement, cette consultation d'annonce a été d'autant plus importante. Alors pourquoi on ne le faisait pas avant? Pour la grande majorité des cas, c'est qu'on avait très peu de moyens thérapeutiques. Donc on faisait un diagnostic et on n'avait rien à proposer derrière. Donc c'était difficile d'annoncer un diagnostic en vous disant « Monsieur, vous avez un cancer, on ne peut rien ». Donc c'est beaucoup plus facile maintenant de mettre en place ce genre de choses, c'est qu'on a vraiment des arguments derrière. On peut, à chaque moment de la maladie, même avec des maladies très évoluées, proposer quelque chose, comme on l'a vu. Et donc c'est important à chaque étape de rediscuter de cela. La deuxième chose, c'est que le malade est de plus en plus informé par les médias, l'Internet, etc. Donc lui, il y a déjà des informations, pas toujours vraies non plus. Donc il faut expliquer et qu'il faut corriger parfois. Et il est, nous déjà, on vous l'a dit, on ne prend jamais une décision tout seul dans notre coin. C'est une équipe qui prend une décision. Mais le malade fait partie de cette équipe également. On décide entre nous de ce qui est mieux pour le malade, mais c'est bien sûr en discutant avec le malade que la décision thérapeutique sera prise en dernier recours.
Je crois qu'il y avait aussi, il y a aussi une réalité, c'est que bon, les chirurgiens et les médecins sont quand même très très pris, travaillent énormément, et il n'était pas toujours facile pour les patients de pouvoir parler avec le médecin qu'ils avaient vu lors de la consultation. Et que de ce fait-là, maintenant, ils n'hésitent pas à appeler l'infirmière référente, de poser leurs questions. Alors, si on peut y répondre, on y répond. Mais Parfois, eh ben, on ne sait pas. Hein. Et là, on n'hésite pas, nous, à poser les questions aux chirurgiens. Et de ce fait, c'est simple. Ce sont des rapports assez simples qui s'instaurent. Et finalement, le patient est rassuré. La famille comprend. Et donc, on avance, quoi. On avance sur un même chemin. Et je crois que ça, les patients en avaient vraiment, vraiment besoin.
Il y a une question, monsieur. Attendez, je vais prendre. Le monsieur, là.
Oui, bonjour. Donc, par rapport à ce que vous parlez de l'accompagnement des infirmières, la relation infirmière-malade, donc c'est au niveau du CHU de Poitiers depuis 7 mois, mais par rapport aux autres hôpitaux ou aux autres CHU, c'est pas encore en vigueur ?
Pas dans tout, si vous voulez, c'est pas en vigueur dans tous les CHU, c'est pas en vigueur dans tous les hôpitaux, mais c'est quand même des recommandations de l'INCa. Vous savez que, tout à l'heure Jean-Pierre a parlé de l'INCa, l'Institut National du Cancer, maintenant... Le traitement du cancer est extrêmement encadré. Donc, ce sont des recommandations de l'INCa. Et de toute façon, pour qu'un établissement, après, soit autorisé à traiter des cancers, parce qu'on en est au stade d'autorisation, hein, avec des évaluations, il faudra forcément qu'il y ait cette consultation d'annonce.
Parce qu'en fait, je parle en connaissance de cause dans ma famille, pour mon papa, par exemple. Et quand il s'est fait opérer à Bordeaux, il y avait... Il était un peu laissé seul. Il n'y avait personne réellement. Il n'y avait pas de référent. C'est comme par exemple, nous en médecine, donc on connaît un petit peu tout. Mais c'est comme si du jour au lendemain, on allait dans une société d'assurance, prendre des actions, prendre un contrat automobile. On ne connaît rien, enfin pratiquement rien. Et on aurait besoin de quelqu'un pour nous dire ça, c'est ça, ceci, c'est ceci, ça veut dire cela. Oui. Parce qu'on est vraiment perdu. Et je trouve que c'est une bonne chose que... une infirmière puisse plus prendre de temps qu'un médecin, parce que c'est vrai que les heures des médecins sont assez comptées par rapport au nombre de patients opérés, puis à la demande tout simplement. Mais c'est vrai que ça devrait être indispensable, cette relation, parce que quand on a un cancer, quand on l'apprend, on est assez angoissé. Et puis le fait aussi de... Parce que même on arrive à grappiller des informations sur Internet. Mais
pas toujours juste.
Voilà. Mais quand on n'est pas dans le domaine de la médecine, on ne peut pas savoir si c'est réellement vrai. Oui. On peut pas tout comprendre. Et je vois par rapport à mon papa qu'on n'osait pas demander au médecin parce que le médecin était extrêmement pressé et que lui, il aurait eu plein de questions, parfois des questions toutes bêtes, mais qu'il aurait bien aimé poser. Et puis le fait de changer aussi en permanence, d'aller au chirurgien, d'aller à la personne qui a fait la coloscopie, d'aller au chirurgien, d'aller au chimiothérapeute, etc. À chaque fois, il change d'interlocuteur et à chaque fois, c'est comme repartir à zéro. Et on est complètement perdu, on est complètement...
Ouais. Alors ça va disparaître. Parce qu'il y a tout à l'heure, il y a le parcours de soins. C'est-à-dire que vous avez parlé d'assurance, vous avez parfaitement raison. C'est comme chez le garagiste, c'est pas choquant de dire ça. On dit aux gens, on vous propose telle chose, tel contrat, et on doit le tenir au courant. Et l'intérêt, justement, de la consultation d'une infirmière, l'annonce, c'est qu'elle va suivre le patient. C'est-à-dire, comme vous l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, il y a un cancer du côlon, il y a des ganglions envahis. Bon, on fait de la chimiothérapie, mais le patient va pouvoir continuer à discuter avec cette infirmière. Mais ça va se mettre partout, mais c'est récent. Voilà. Donc, c'est que quand votre papa s'est fait opérer à Bordeaux, ce n'était pas encore en place, mais ça le sera, de toute façon.
Je crois qu'il ne faut pas oublier aussi le rôle très important du médecin généraliste, hein, parce que c'est lui qui va connaître le mieux le patient, hein, qu'il voit régulièrement, etc. Ben c'est lui qui a également les informations du chirurgien, qui va centraliser un petit peu tout ça. Les infirmiers ont un rôle complètement différent et indispensable, mais je crois que le rôle du médecin généraliste, justement pour rassurer, pour expliquer, est également très très important. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'il nous arrive aussi, nous, souvent, d'annoncer des choses graves. Et on ne les annonce pas de la même façon à telle ou telle personne, puisqu'on les connaît bien, on connaît leur mode de réaction. Bien que certaines fois, quelqu'un qu'on connaît bien qui vous dit « Vous savez, vous pouvez tout me dire et tout », c'est pas du tout celui-là qui va recevoir le mieux les infos. Et au contraire, des gens qui paraissent fragiles et tout, ont un cran et s'accrochent et sont positifs dans la démarche. Donc c'est vraiment au jour le jour et il nous arrive parfois pour des cas d'annonce de ce type de revoir les gens plusieurs jours de suite, ben revenez, discutez d'un truc, téléphonez-moi ou autre. Et ça, c'est très, très important. Il n'y a rien de pire que la non-communication et la non-explication.
Alors moi, je voudrais seulement dire, madame, c'est que très souvent, en conclusion, lorsqu'on a reçu le patient, l'infirmière, donc, et très souvent, on lui dit, écoutez, maintenant, il est très important que vous en fassiez part à votre médecin de famille, que vous partagiez ça et à la limite même, on propose nous de téléphoner au médecin traitant pour que déjà se fasse... Mais on a encore, c'est sûr, plein de choses à faire pour en arriver à un meilleur dialogue, ça, c'est sûr.
Et puis chez nous, il n'y a pas de chirurgien pressé maintenant. Il y a des chirurgiens occupés, mais ils ne sont pas pressés. Et je plaisante qu'à moitié en plus.
Oui, une question, madame.
Oui, bonsoir. Donc, moi, là-dessus, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc, en m'appuyant sur mon cas personnel, donc, j'ai été opérée d'un cancer colorectal il y a 3 ans. Et donc, pour le suivi, donc, je suis en suivi. Par contre, donc, le dernier examen s'est passé le 30 juillet 2008, donc pour une écho-endoscopie au CHU. J'en avais eu une précédemment au mois de mars qui était négative et celle du mois de juillet s'est révélée positive. Donc le docteur gastro-entérologue m'a appelé en me disant que c'était urgent, il était sûr à 98% que c'était une récidive et qu'il fallait que il me laissait le week-end pour me faire opérer, enfin de réfléchir pour me refaire opérer. C'est-à-dire là c'était l'ablation du rectum, donc une ostomie. Je l'ai très mal vécu.
C'est-à-dire que le suivi, en tout cas, là c'est douloureux parce que madame en parle, c'est encore très proche. Donc, il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer aussi dans la manière peut-être d'informer les gens et d'être moins catégorique aussi.
Tout à fait.
On ne détient pas la vérité. Je crois que si on a mis en place ce genre de système, c'est qu'on est bien conscient de nos lacunes. Bon, moi, je suis désolé pour vous que ce soit passé comme ça, mais on essaie de l'éviter au maximum.
Oui, mais si vous voulez, donc mon dossier est repassé en commission pluridisciplinaire. Donc vous avez souhaité continuer la surveillance. Par contre, ce docteur m'a rappelé 2-3 fois après, me disant qu'il fallait absolument que je me fasse opérer. Donc il n'était pas d'accord avec vous.
J'ai rarement tort pourtant, là, je ne comprends pas.
Donc, si vous voulez, donc, j'en ai discuté avec mon cancérologue et tout ça. Donc, nous avons repris un deuxième avis sur Bordeaux. Cet avis sur Bordeaux donc, a été le même que le vôtre.
Ça me rassure.
Donc,
oui, non, mais je crois que bon, c'est difficile de parler, on comprend, mais... Votre témoignage est important, ça démontre bien que rien n'est simple.
C'est pas une science.
Et que, vous savez, tous ici à cette table, on est soi-disant des professionnels. Le jour où on nous annoncera la chose, on ne sera pas fiers.
Oui.
Peut-être même moins que vous, en plus.
Hein? Mais on fait tous des erreurs par excès ou par omission. Et on est là pour travailler ensemble et éviter ces erreurs. Et dans la mesure, peut-être que la personne, je ne connais pas, a été persuadée de ça et ne voulait surtout pas vous faire perdre de temps. Ça partait vraiment d'un bon sentiment. Et que si, étant persuadé de cette chose-là, il ne vous avait pas téléphoné, là, il aurait été en faute. Ce n'est plus une erreur, c'est une faute à ce moment-là.
Mais moi, c'est que je risquais quand même gros.
Oui, mais vous savez, pour un médecin, qu'est-ce qui est anxiogène ? C'est de ne pas avoir fait son boulot. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde. Oui. Bon, prenons quelqu'un qui a eu un retard de diagnostic dans la maladie cancéreuse, ça peut être catastrophique. Donc, à un moment donné, on est aussi stressé un peu de se tromper.
Hein.
Si voilà. Vous voulez, vous pourrez peut-être en parler aussi.
Non, c'est tout l'intérêt de ces réunions multidisciplinaires. Hein. On ne peut absolument pas prendre une décision tout seul. Pour plusieurs raisons. Premièrement, chaque malade, chaque maladie est unique. Hein. On peut pas. Comme l'a dit Jean-Pierre, on a des protocoles internationaux. On sait que dans tel ou tel cas, c'est cette recette qu'il faut appliquer. Mais chaque malade est différent, chaque cas est différent, et il faut rediscuter de ces cas à chaque fois. Hein, et pour le même malade, à chaque fois qu'on a une nouvelle information, on rediscute tous ensemble de ce cas-là. Et on n'est pas toujours d'accord lors de ces réunions, et on rediscute à chaque fois, et on essaye de peser le pour et le contre entre nous et avec le malade. Hein, et ça, c'est indispensable parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. On a des données scientifiques, mais il n'y a pas de recette miracle. Et c'est pour cela qu'il y a toujours, il peut y avoir des hésitations. Hein, et ça, c'est important. La deuxième chose, effectivement, c'est le problème. On parle du diagnostic d'annonce initial, mais comme on l'a vu, des annonces, on va en faire pendant tout le suivi de la maladie. Et c'est le rôle d'avoir justement une infirmière, entre guillemets, coordinatrice de tout cela, qui va être l'interlocuteur privilégié tout au long de cette maladie. Et un petit peu la coordination entre les différents médecins tout au long de la maladie, parce qu'effectivement, des annonces, on va en faire au départ, mais à chaque étape de la maladie. Et ça, effectivement, très important.
Il y avait une question dans le fond, je crois.
Oui.
Parlez bien dans le micro, madame.
Oui, je suis infirmière et j'ai appris par téléphone que mon polype était cancéreux. L'interne de gastro, étant donné que j'étais infirmière, a pensé que je pouvais entendre le diagnostic toute seule chez moi un soir de novembre. Et voilà, par téléphone, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Mais j'ai été opérée par M. Cartier.
Et vous êtes toujours là.
Bon, et je suis bien vivante. Et voilà, tout va bien. Mais je n'ai pas aimé du tout l'annonce par téléphone.
Mais c'était quand même il y a quelques temps.
C'était en 92.
Oui.
Et donc, on a évolué quand même.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Mais bon, l'interne était très gêné. Il pensait qu'en tant qu'infirmière, je pouvais l'entendre.
C'est bien ce que je disais tout à
l'heure. Mais on n'est plus dans le métier.
Parfois, on croit qu'on va bien recevoir, mais ce n'est pas vrai.
Oui, voilà.
Attendez. Allez-y, madame. Et puis, il y aura une autre question.
Je me pose la question si en mars, parce que moi aussi, j'ai eu des polypes non cancéreux. Et si on m'avait annoncé 6 mois plus tard que c'était cancéreux, j'aurais été surprise, quoi. Est-ce qu'en 6 mois, ça peut évoluer?
C'était des polypes non cancéreux, c'est ça? Sur l'évolution.
L'évolution des polypes, on sait effectivement qu'un polype adénomateux non cancéreux va mettre 10 ans pour faire un cancer. Mais ça, c'est une moyenne, hein. On a vu en fonction des antécédents familiaux que les choses peuvent être extrêmement différentes. Hein. C'est pour cela que c'est important d'avoir les antécédents familiaux. Hein. C'est très important. Y a des familles où on connaît les anomalies génétiques, hein, des anomalies qui sont très connues, et où le risque de cancer peut apparaître avant l'âge de 18 ans, hein, dans certains cas extrêmes. Hein. Il y a d'autres familles, effectivement, où on a plusieurs cas de cancer avant l'âge de 50 ans, voire avant l'âge de 40 ans. Donc, c'est toujours difficile de parler d'un seul cas. Hein, c'est important d'avoir les antécédents familiaux et de voir le plus d'un renseignement possible concernant cette famille. Parce que moi, c'est ce que souvent on me dit, mais mes enfants, quel risque ils ont en fonction de ce qu'on a trouvé chez moi? On ne peut pas toujours le dire, sauf si c'est vraiment un cancer et que vous l'avez eu avant 60 ans. On sait que le risque est important pour vos enfants d'avoir un polype ou un cancer, donc il faut un suivi. Mais c'est important, si tous vos frères et sœurs ont eu des polypes, si vos parents des deux côtés ont eu des polypes, on ne va pas faire une surveillance identique que s'il y a une seule personne dans la famille qui a eu un cancer. Hein, même chose pour le rythme de la surveillance. Habituellement, c'est tous les 5 ans. D'autres, ça va être tous les 2 ans. Il y a certaines familles, on va leur faire une coloscopie tous les ans. Dans d'autres cas, même c'est tous les 6 mois, même après chirurgie, etc. Donc vraiment, ce sont des cas extrêmement différents. Hein, et c'est vraiment au cas par cas qu'on peut discuter de la surveillance.
Et en plus, il faut, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qu'elle soit rentable. C'est-à-dire que si vous avez affaire à quelqu'un qui est très, très âgé et vous n'allez pas pouvoir lui proposer un traitement particulier parce qu'il est trop âgé, se pose le problème de la surveillance. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut surveiller ?
Et puis la même chose, quand nous, par exemple, on enlève des polypes à quelqu'un, on vous dit, ben, en fonction de ce qu'on a trouvé, l'analyse des polypes, contrôle dans 5 ans. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est contrôle dans 5 ans s'il n'y a rien entre-temps. C'est un peu comme les mots cultes. Hein. Si on vous dit, bon, les mots cultes, c'est-à-dire la recherche de sang dans les selles, est négative. On refait un hémoculte dans 2 ans. Oui, mais s'il n'y a rien entre-temps. Si vous avez un saignement visible, des douleurs, des troubles du transit, etc., dans les 2 ans ou dans les 5 ans, il faudra reconsulter votre médecin traitant qui, lui, va évaluer quels peuvent être ces symptômes, le risque d'avoir de nouveau un polype, etc. Donc c'est à chaque fois une évaluation. On sait qu'en 5 ans, si la coloscopie est normale, le risque d'avoir un gros polype cancéreux dans 5 ans est très faible. Mais en statistique, hein, ce n'est pas obligatoirement votre cas. Donc il faut garder une certaine raison.
Il y a une question et puis madame ensuite. Allez-y madame. Oui,
oui. Oui, j'aimerais savoir s'il vous plaît s'il y a des contre-indications à la coloscopie ou des alternatives à la coloscopie.
Alors, c'est une excellente question. Des contre-indications à la coloscopie, il y en a très peu. Hein, il y en a très très peu. On peut faire dans certains cas des coloscopies sans anesthésie ou sous prémédication sans anesthésie générale. Puisque dans les contre-indications à la coloscopie, il peut y avoir une contre-indication à l'anesthésie. C'est rarissime. C'est rarissime, il faut vous dire qu'on endort des gens de 95 ans pour faire des coloscopies et qui ont des antécédents cardiovasculaires. Il faut toujours ensuite calculer le bénéfice-risque de chaque examen. Donc les contre-indications sont extrêmement rares. Après, ce peut être des contre-indications qui sont liées au côlon lui-même et aux risques liés à l'examen lui-même, puisque la coloscopie n'est pas un examen sans risque. Il y a des risques de saignement quand on enlève un polype, il y a des risques de perforation du côlon quand on enlève un polype ou quand on fait une coloscopie chez des gens qui ont certaines anomalies, notamment des diverticules, etc. Même si ce risque est extrêmement faible, il y a certains risques. Donc la contre-indication à la coloscopie, c'est extrêmement rare. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives. La seule alternative actuellement validée, quand il y a une formelle contre-indication à la coloscopie, c'est une technique d'imagerie par scanner, qu'on appelle le coloscanner. Il faut savoir que le coloscanner dépiste très difficilement des polypes de moins d'un centimètre, encore plus difficilement des polypes de moins de 6 mm. Or, un polype déjà de 6 mm peut être déjà cancéreux. Donc c'est une alternative quand on ne peut pas, mais il faut savoir que l'efficacité diagnostique de cet examen est bien moindre que la coloscopie d'une part. Deuxièmement, c'est un examen diagnostique. Si cet examen détecte un polype, il faudra bien l'enlever. Il y a d'autres alternatives qui sont en cours d'essai. Et nous, on l'utilise maintenant depuis plusieurs mois en essai. C'est la vidéocapsule colique. Il existe un examen que nous, on utilise depuis 2002. C'est une gélule qui est une caméra qu'on avale, qui filme l'intestin grêle. Et donc, pour l'intestin grêle, on l'utilise depuis 2002. C'est un examen qui est maintenant, pour l'intestin grêle, fait en routine. Pour le côlon, ce n'est encore pas un examen validé. On est en cours d'utilisation et de validation de cette technique. Donc la coloscopie reste de très loin le meilleur examen, parce qu'en plus on fait une pierre deux coups, on voit le polype, on l'enlève, et les contre-indications sont vraiment très très rares.
La question était par rapport aux diverticules justement.
Alors par rapport aux diverticules, à moins d'avoir une diverticulose extrêmement sévère,
diverticule. Peut-être expliquer, peut-être pour...
Les diverticules, en fait, ce sont des petites hernies de la paroi de l'intestin qui sont très fréquentes, notamment à la partie gauche de l'intestin à partir de 50-60 ans, et qui effectivement fragilise la paroi de l'intestin. Mais vous savez, on fait, par exemple dans le service, on fait, je ne sais pas, 2500 coloscopies par an. Il y a 50% des patients qui ont des diverticules. Hein, à part certaines personnes qui ont des diverticuloses extrêmement sévères, hein, ce qui est rarissime, il y a rarement une contre-indication à faire une coloscopie simplement pour une diverticulose classique.
On va prendre la question de monsieur. Il y a madame après vous, parce qu'elle était avant vous, mais comme on va faire le sens du micro, ça ferait moins de chemin. Allez-y, s'il vous plaît.
Si je peux me permettre, messieurs, madame, je suis président des stomisés de la Charente et de la Vienne depuis un an. J'ai été invité à ce colloque. Je vous en remercie. Je tenais à faire savoir aux personnes qui sont présentes aujourd'hui que l'association des stomisés sur Poitiers tient bureau tous les deuxièmes jeudis du mois, que nous pouvons vous aider dans vos démarches, autant psychiques que des démarches institutionnelles. C'était quelque chose que je voulais faire il y a une dizaine d'années au CHU. Ceci ne s'est pas fait pour des raisons XY. Je travaille en coordination avec Mme Brûlé, service viscéral du CHU de Poitiers. C'est une précision que je tenais à faire, parce que je voudrais bien repartir, étant donné que j'ai 200 km à faire.
Merci d'être venu, monsieur. Vos bureaux se trouvent où? Si on peut donner les coordonnées, vous pourrez les laisser.
Je pense que l'estomathérapeute qui est ici les connaît. Elle-même vous les diffusera.
Très bien. Madame Brûlé n'a pas pu venir parce qu'elle était occupée, mais
voilà,
on a maintenant.
Madame Brûlé n'est pas là.
Donc là, vous abordez un problème qui est.
Merci, monsieur.
Je vous remercie.
L'estomie.
Peut-être on prend la question de oui. Madame et puis on va y revenir, notamment avec Madame qui pourra nous parler de.
Ma question est l'approche de l'être humain. Je voudrais rebondir sur quelques réflexions que je viens d'entendre dans la salle. À savoir qu'à l'hôpital, on refuse d'annoncer quelques diagnostics que ce soit par téléphone. Or, je sais que c'est le cas. Actuellement, j'ai une amie qui est dans un autre service et qui est persécutée par ce service. À savoir, on souhaite qu'elle vienne, on lui annonce par téléphone. Et donc, ça se fait toujours. D'autre part, il y a des personnes qui sont portées à bout de bras par d'autres spécialistes et qui ont des radiologues ou d'autres médecins, pour ne pas les nommer, qui leur annoncent de but en blanc leur diagnostic. Et après, il faut donc les remonter.
Il y a également. Il faut qu'on reste un peu dans le sujet aussi.
Tout à fait, absolument. Et d'autre part, il y a des personnes, et je voudrais donc attirer l'attention, dans mon entourage, proche et moins proche, des amis, qui m'ont dit que s'ils voulaient se battre, ils ne voulaient pas connaître la vérité en totalité.
On a vu que l'approche n'était jamais forcément facile. En tout cas, il y avait des progrès qui étaient faits, notamment avec cette consultation qui est récente. Hein, donc, c'est peut-être aussi des choses qui ont évolué. Et bon, en tout cas, merci de votre témoignage.
C'est vrai qu'il faut être très vigilant. Moi qui fais de l'image toute la journée, l'image est très trompeuse. Et c'est l'avantage de la coloscopie, je vous dis, par rapport à toutes les autres techniques, même si les autres techniques, notamment la radiologie, est extrêmement utile, notamment pour le bilan d'extension de la tumeur. Hein. Moi, je n'annonce jamais un résultat de cancer, même si la tumeur me semble à l'évidence cancéreuse lors de la coloscopie. Je ne dis jamais de manière formelle que c'est un cancer tant que je n'ai pas les résultats des prélèvements. Hein, ça, c'est vraiment parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper et même si on peut pécher par excès et qu'on va rassurer le patient, je peux vous dire que pendant la période d'attente, hein, de confirmation, on lui a gâché sa vie et ça peut être, même si on l'a rassuré après sur la bénignité des choses, ça peut être extrêmement préjudiciable. Donc c'est vrai que c'est important et c'est encore plus important pour les radiologues Hein, je crois qu'il est il faut effectivement être toujours très 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 à l'écoute et faire très attention avant de donner un diagnostic, d'avoir vraiment une certitude diagnostique.
Alors quelques précisions également. Dans ces RCP, dans ces réunions de concertation pluridisciplinaire, vous avez vu toutes les spécialités sont représentées avec un médecin de chaque discipline qui prend la compétence, entre guillemets, dans ce domaine-là, un ou plusieurs. Hein. Donc, il est certain que ces dérives, qui peuvent se voir probablement encore, hein, sans problème, vont, avec le temps, s'atténuer, voire disparaître, on l'espère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les différentes spécialités qui interviennent dans le diagnostic et le traitement sont inégales. Nous, on va être amené à faire un geste, et ce geste, il faut le justifier. Donc, on a la nécessité d'expliquer, en tout cas de donner le diagnostic pour expliquer le geste aux patients. Dans la très grande majorité des cas, il existe toujours des circonstances où ce n'est pas vrai parce qu'on est en urgence, parce que le patient est pas très bien et ne peut pas entendre les choses. Mais dans la grande majorité des cas, on est bien obligé d'avoir avec lui, d'où la consultation d'annonce lors de la première consultation en théorie du patient en chirurgie. Sinon, il ne comprendra pas les sacrifices intestinaux qu'on va lui imposer s'il n'y a pas une justification médicale derrière.
Encore votre question, puis on parlera aussi.
S'il vous plaît, autour de cette table, vous êtes médecin du CHU. Est-ce que vous pouvez nous parler...
Généraliste aussi.
Oui, je sais, Madame Bérard. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de la relation publique-privée?
Oui, bien sûr, sans problème. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas croire que parce que ce sont des médecins du CHU qui sont là, que les cancers ne peuvent pas être traités à la polyclinique, par exemple. Et nous, on n'a aucun problème de relation avec la polyclinique de Poitiers, où il y a des chirurgiens digestifs, des gastro-entérologues parfaitement compétents. Alors où après la polyclinique se retourne vers le CHU, c'est quand on veut faire des traitements oncologiques médicaux parce que la polyclinique n'a pas de médecin oncologue et n'a pas de radiothérapie. Et donc là aussi, et Thierry et Jean-Pierre pourraient en témoigner, quand nous faisons nos réunions multidisciplinaires, nous voyons également les dossiers des patients qui sont suivis par nos collègues libéraux. Et les collègues libéraux viennent et on discute entre spécialistes de traitements à faire. Donc il n'y a aucun souci entre le libéral et le CHU. Ça, c'est très clair. Enfin, en digestif, après nous,
oui. On ne connaît pas les autres spécialités, mais pour nous, digestif, effectivement, à la réunion multidisciplinaire que l'on fait tous les lundis soirs, il y a de nombreux chirurgiens et médecins libéraux, d'anatomopathologistes également, qui viennent discuter des dossiers. Et tous les dossiers du libéral sont discutés de toute façon dans cette réunion.
Et après, s'il y a un problème de plateau technique, ou par exemple, il y a nécessité d'avoir un plateau technique, j'allais dire, en termes de réanimation ou en termes autres, il n'y a aucun problème pour que ça se fasse, par exemple, au CHU, parce que l'autre établissement libéral n'a pas les mêmes possibilités. Et quand ça peut être fait à la polyclinique, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas fait. Et de toute façon, chaque fois que le dossier a été discuté, le chirurgien ou le médecin libéral qui porte le dossier est libre de faire comme il l'entend. Bon, s'il pense qu'il peut le faire, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, parce qu'ils sont aussi bons, je n'allais pas dire meilleurs, parce que ce ne serait pas bon pour nous, mais il n'y a aucune différence en termes de technique chirurgicale. Par contre, si ça ne se discute pas avec la polyclinique de Poitiers, comme je vous disais, maintenant, l'INCa, j'ai fait partie des commissions, impose un certain nombre d'interventions pour donner l'autorisation d'opérer des cancers. Il y a des établissements dans la Vienne qui n'ont plus le droit d'opérer des cancers dans la Vienne ou dans le Poitou-Charentes ou ailleurs.
Alors, quelques petites précisions. D'une part, la notion de RCP est définie, c'est-à-dire qu'il faut avoir des médecins de compétences différentes et avec des compétences représentées. Alors, si c'est du digestif, c'est autre chose que de la dermato, etc., etc. Donc, c'est défini. Il y a des règles du jeu qui sont définies par les lois. La deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité, nous, d'avoir toutes les spécialités représentées sur le plateau technique, y compris en oncologie médicale, enfin en chimiothérapeute et en radiothérapie, ce qui n'est pas le cas dans certaines structures. Et non seulement le privé discute avec nous de leurs dossiers ou nous adresse quand c'est des on doit colliger également tous les dossiers pour faire des études statistiques. Il faut donc bien un centre pour faire cette gestion purement administrative des dossiers, parce qu'on évolue sur les fréquences des cancers, leur stade, etc., hein, pour faire remonter au ministère toutes ces données. Ça, c'est un autre point. Et enfin, on a également des structures publiques qui prennent contact par visioconférence avec nous dans le département et hors département, parce qu'on a le nombre de médecins susceptibles de réaliser une vraie RCP. Et le médecin intervenant, par exemple, de Thouars à l'extérieur ou de Châtellerault, est en visioconférence avec nous. Il nous voit, on le voit, on discute du dossier. Il nous a souvent envoyé des éléments d'imagerie, enfin tout le dossier qu'il souhaite nous adresser. Et on discute avec lui, il participe à la discussion, mais il est dans un autre site. Donc c'est, vous avez dû voir que les progrès de la technologie amène des progrès médicaux, mais c'est également dans le cadre des discussions de dossiers. On peut très bien imaginer que dans quelques années, on soit dans notre bureau, chacun de notre côté, être en visioconférence à 5, 10, 15 personnes.
Tous les hôpitaux effectivement de la Vienne, qu'ils soient publics ou privés, hein, participent à ces conférences, hein, de réunions multidisciplinaires. Donc tous les cancers digestifs de la Vienne, en fait, sont discutés dans ces réunions.
Alors pour vous donner un exemple, moi je vais régulièrement à Montmorillon où je fais de la consultation d'annonce avec les infirmières de l'hôpital de Montmorillon. Je vais au Blanc et on fait aussi de la consultation d'annonce et on travaille en coopération avec ces différents hôpitaux.
Moi je voudrais vous apporter un élément de sérénité, c'est que sur Poitiers, je ne connais pas ailleurs, mais en tant que généraliste, nous avons un excellent rapport avec tous les médecins de l'hôpital. On peut téléphoner quand on veut. Il suffit de trouver le créneau horaire, mais on a des relations qui sont vraiment excellentes. Avec la polyclinique, c'est la même chose. Et entre la polyclinique et l'hôpital, il y a même des gens qui travaillent en coordination sur les scanners, etc. Il y a vraiment une mise en commun de certaines données. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Et sur Poitiers, vraiment, je crois qu'on n'a pas à se plaindre du tout. Et on est heureux de travailler dans ces conditions-là.
On a cette chance-là. Tout ouais, à fait.
C'est exceptionnel.
Et souvent, on voit les médecins de la clinique venir. La semaine dernière, c'était entre deux blocs qui sont venus présenter un dossier qui leur posait problème. On en a discuté ensemble. Ils sont repartis avec une solution qu'ils vont discuter avec leurs patients. C'est même rassurant de pouvoir discuter entre nous de dossiers difficiles parce qu'on a des avis parfois convergents, parfois divergents. Mais ce qui est certain, c'est quand on est plusieurs spécialités thérapeutique et diagnostique, parce qu'on a les radiologues qui sont là, qui parfois redressent des diagnostics difficiles ou nous aident à prendre une décision. On sort de ces réunions, en tout cas, on a une solution pour le patient. Alors qu'on arrive parfois en se demandant, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, etc. C'est très soulageant d'avoir ces RCP. Et chaque semaine actuellement, on a une moyenne de 80 dossiers. Donc vous voyez, 80 dossiers, on commence à 4h de l'après-midi, et souvent à 20h, on est encore là. Alors il y a des dossiers simples qui sont des enregistrements pour les statistiques. Donc ça coule de source, ça va très vite. Et on a souvent des dossiers difficiles de droite et de gauche et qu'on va discuter ensemble.
Alors nous, on va arrêter à 22h30. Alors donc, si on peut juste un petit peu parler de deux choses. Madame qui va nous parler de la chirurgie mutilante. C'est vous, pardon, madame. Et puis peut-être, je vous poserai aussi une question sur les progrès qu'on peut attendre. On a vu qu'on pouvait espérer guérir davantage de cancers, mais savoir aussi où en est la recherche en la matière. Donc peut-être donner la parole à madame, dans un premier temps.
Bonsoir. Donc nous sommes deux infirmières sur le CHU de Poitiers, spécialisées dans tout ce qui concerne les problèmes de stomie. Donc, l'astomie, c'est vulgairement l'anus artificiel qui peut être mis lors d'une intervention donc mutilante, hein, puisque on court-circuite momentanément l'émission des selles, ce qui entraîne effectivement de lourds troubles psychologiques bien souvent chez les patients. Et donc notre rôle commence bien en amont puisqu'on intervient également au moment de la consultation d'annonce. On rencontre les patients en préopératoire, puisque le chirurgien leur a déjà annoncé qu'ils auraient ou pas une stomie, et que si toutefois ils doivent avoir une stomie, effectivement, il y a plein de choses à expliquer autour de ça, et surtout dédramatiser la situation. Donc, on intervient en préopératoire, on voit les patients en consultation. Nous sommes prêtes à les recevoir encore une autre fois avant l'opération, pardon, si c'est nécessaire. Nous les revoyons la veille de l'intervention, puisque effectivement il faut repérer le site où le chirurgien va mettre la stomie, de façon à ce qu'ensuite nous puissions l'appareiller correctement, parce qu'il faut bien dire que une stomie, c'est pas simple à gérer, la plupart du temps c'est très difficile, et qu'il faut absolument que la stomie soit bien positionnée sur l'abdomen, c'est-à-dire pas dans un pli, pas près d'une cicatrice. Enfin, il y a plein de précautions à prendre, et de façon à ce que l'appareillage se tienne bien en place et que l'aisselle ne fuit pas à côté de l'appareillage, puis évidemment, ça entraîne de gros dégâts. Donc ça, c'est une partie de notre rôle. Et puis, bien entendu, on travaille en complémentarité avec toute l'équipe du service de chirurgie, donc toutes les infirmières et infirmiers. Nous venons les seconder, les aider. On a un rôle éducatif très important auprès du patient pendant toute son hospitalisation, mais aussi après l'hospitalisation, puisqu'on peut les revoir en consultation un mois, voire plus précocement si nécessaire, pour continuer l'éducation si ça n'est pas terminé à la sortie, parce que le but, c'est que le patient, lorsqu'il sort de l'hôpital, soit complètement autonome avec son appareillage et qu'il puisse s'occuper entièrement de sa stomie sans avoir besoin de l'aide d'une personne extérieure. Ça lui rend entièrement son autonomie. Voilà. Donc,
si j'étais quelqu'un dans la salle, je vous poserais la question suivante. Vous direz, est-ce que si j'ai une stomie, je peux garder ça pour moi par rapport à mon voisinage?
Oui, tout à fait.
Je crois que ça, c'est important.
J'avais pas tout à fait terminé, Monsieur Cartier.
Vous avez coupé, oui.
Elle allait le dire.
Donc, l'argument que l'on avance généralement, c'est que lorsque vous êtes habillé, lorsque vous circulez, si vous êtes bien appareillé, que toutes les précautions ont été réunies en préopératoire et qu'il n'y a pas eu d'accident, parce qu'il y a quand même des accidents, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même quelquefois des accidents, il ne faut pas non plus le nier, et surtout pas le cacher au patient en lui disant « mais ça va bien se passer, vous verrez, vous n'aurez aucun problème, c'est pas du tout... enfin, moi, je ne fonctionne pas comme ça. » Donc, je dis souvent aux patients, quand vous croisez certainement souvent des gens que vous connaissez habituellement, qui ont peut-être une stomie, et vous ne le savez pas, donc c'est pas écrit sur le visage, ça peut tout à fait... ça fait partie de vous, c'est votre corps, ça vous appartient. Donc vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous avez une stomie. Vous avez le droit aussi de le dire si ça vous tient à cœur, parce qu'il y a quelquefois des inconvénients, des questions qui me sont posées du style « est-ce que ça fait du bruit lorsqu'il y a un gaz ? Est-ce qu'il y a des odeurs ?» Donc les bruits, effectivement, on ne peut pas trop les atténuer. Les odeurs, les appareillages sont tout à fait bien conçus aujourd'hui. Ils sont munis d'un filtre au charbon qui laisse échapper l'air, mais qui, en principe, retient l'odeur. Donc, dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Cartier ?
J'avais posé une bonne question.
Oui.
Très bonne. Très.
Et on a des gens qui font des activités sportives, même des activités de natation,
voilà, oui,
des activités professionnelles, qui ont une vie normale.
Oui, des gens qui vivent, qui ont des stomies très jeunes, qui ont des stomies très jeunes et qui vivent longtemps avec une stomie.
On va prendre la question de madame et puis après on parlera de la recherche et des progrès.
Est-ce que la nourriture industrielle, est-ce que ça a une influence sur les cancers du côlon ?
Ah, alors là, c'est pas une question forcément pour vous. La nourriture industrielle, vous voulez parler de...
C'est bon pour rien.
Parce qu'on a vu l'importance des légumes, des fibres, etc. dans la prévention. Qu'est-ce que vous voulez par, qu'est-ce que vous voulez dire par la nourriture industrielle?
Les pesticides, les nouvelles techniques de culture.
Après, ce n'est pas d'éléments de réponse précis.
Alors, dans le cancer du côlon, je n'ai pas vu d'études.
Juste une chose, oui, vous voulez.
Oui, je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus parce que tout à l'heure, Mme Bérard disait qu'il était important de garder la peau des légumes. Et juste, je voulais juste préciser qu'avec effectivement, la dame vient de parler de pesticides. Les pesticides se concentrent dans la peau des légumes. Donc, aïe. Et il y a un problème aussi financier puisque les produits bons et sains sont très chers. Et donc là, la conjoncture n'est pas. Ou alors, il faut faire son jardin. Je crois que ça, c'est important. Même dans les jardinières.
Cette étude de l'alimentation et on commence à savoir les effets délétères maintenant.
Oui, mais je crois que pour répondre à votre question sur les pesticides, c'est très difficile. Parce que tout à l'heure, comme l'a dit Mme Bérard, c'est facile de dire que, par exemple, autrefois, quand les Japonais allaient aux États-Unis, et chez eux, ils ne faisaient pas de cancer du côlon, c'est l'équivalent un peu de la Chine. Et puis, dès qu'ils allaient sur la côte est des États-Unis, ils avaient des cancers du côlon. Bon, maintenant, au Japon, ils ont des cancers du côlon parce qu'ils mangent comme, j'allais dire, les gens de nos régions, Europe et États-Unis. Par contre, pour les pesticides, c'est plus difficile parce que c'est très difficile d'avoir une population aussi complète. Je ne sais pas si on arrivera à le définir véritablement.
Je pense que les pesticides, tout ça, tous les polluants, c'est difficile à mettre en évidence, les facteurs. Moi, je dirais, vaut mieux manger beaucoup de légumes, même avec des pesticides, que d'être obèse parce qu'on n'a pas mangé de légumes, manger des plats gras, être complètement sédentaire. Là, oui, si vous êtes obèse, que vous mangez des graisses, pas de légumes, de la viande rouge, du sucre, vous allez avoir un risque de faire un cancer. Du côlon ou ailleurs, vous risquez de mourir d'un infarctus. Vaut mieux manger beaucoup de légumes, même si un peu de pesticides, que de manger des repas gras, sucrés, salés et très sédentaires.
Et s'il n'y en a pas, il n'est pas conseillé d'en rajouter non plus.
Oui, s'il y en a un dans la salle, il serait bien sortir.
Non, je crois que c'est important. Bon, on se focalise sur les pesticides, etc. Mais je crois que sinon, on ne mangerait plus rien. Je crois qu'il. Bon, si vous pouvez faire votre jardin et manger les légumes de votre jardin, c'est mieux. Manger quand même des légumes, des fruits, ça sera toujours mieux pour votre santé.
Il y a un élément important à considérer sur le plan purement scientifique, c'est qu'on parle de facteurs favorisants, mais pas de causes. Tout ce qui a été dit, à part les problèmes génétiques qui ont été abordés à de nombreuses reprises, ce sont des facteurs éventuellement qui favorisent l'éclosion, mais on n'a aucune preuve de relation directe. Direct, certain et exclusif.
On va s'arrêter. Alors, c'est moi qui vais poser la dernière question. À moins qu'il y ait,
juste une dernière précision. Ouais. On a une ligne directe pour nous joindre au CHU si des personnes sont intéressées pour eux ou ont besoin de venir nous voir en consultation, même si on ne les a jamais vus auparavant. On voit souvent des gens en consultation qui ont des problèmes. Soit ils sont adressés par la polyclinique, soit parce qu'ils connaissent quelqu'un de leur entourage qui leur dit « mais il y a des infirmières spécialisées au CHU qui peuvent vous recevoir en consultation si vous avez un souci ». Donc il y a une ligne directe. Et deuxième chose, par rapport à ce que disait le président de l'association des stomisés tout à l'heure, la réunion effectivement a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois, l'après-midi, sur la polyclinique. Donc là, il y a effectivement des stomisés et une de nous deux qui intervient quand ça nous est possible.
Donc, je pose l'avant-dernière question puisque monsieur a posé la dernière. Juste pour savoir, on a vu l'importance du dépistage. On a vu aussi les progrès qui sont faits dans les traitements, mais où en est la recherche et qu'est-ce qu'on peut attendre encore pour demain comme amélioration en termes de traitement?
Si vous voulez, en termes de traitement, là, Jean-Pierre en a un peu parlé, c'est-à-dire c'est de trouver des nouvelles chimiothérapies qui soient plus ciblées, c'est-à-dire qui relèvent plus donc de la tumeur. Et en fait, c'est... Mais ça, nous, on n'est pas quand même de très grands spécialistes de recherche en cancérologie. On l'a fait ailleurs, mais pas sur la cancéro. Mais c'est aussi de l'étude génétique. On vous a dit tout à l'heure que, par exemple, il y avait des chromosomes qui étaient modifiés parce que des gènes suppresseurs de tumeurs étaient détruits. Bon, c'est un peu comme la leucémie. Bon, dans la leucémie, on est plus en avance puisqu'on sait que, par exemple, dans la leucémie, il y a des chromosomes qui sont atteints. Et bien, si on arrivait à bien déterminer ces gènes, on pourrait éventuellement envisager un traitement à ce niveau-là.
Et après, c'est la chimiothérapie. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Pierre.
Oui, il y a des gros progrès en chimiothérapie. Hein. On a des chimiothérapies, donc des drogues qui vont agir en tuant certaines cellules. Et on essaye de faire des thérapies de plus en plus ciblées et de détruire le plus possible de tumeurs et de moins tuer les cellules, les bonnes cellules, si vous voulez. Hein. Donc avoir des effets secondaires importants. On sait que les tumeurs ont besoin d'un réseau vasculaire de vaisseaux pour pouvoir croître. Et donc il y a des thérapies maintenant qui ne sont pas antitumorales au propre terme, mais qui agissent en limitant le développement des vaisseaux au niveau des tumeurs. Et donc la tumeur ne peut pas se développer à cause de cette angiogénèse, c'est-à-dire cette générescence des tumeurs, des vaisseaux. Donc on agit sur plusieurs éléments. Et il y a beaucoup de progrès dans ce type de produits. On n'utilise plus un seul produit, ce sont des cocktails de produits qui vont agir sur des niveaux différents de la tumeur pour avoir une efficacité.
Alors une autre source de recherche aussi qui est importante, c'est d'essayer de déterminer quel patient va au cours de l'évolution récidiver ou faire des métastases. Et l'idée à ce moment-là, c'est grâce à des tests biologiques là, de dire il y a tel marqueur qui apparaît, il est élevé. Donc on ne va pas faire, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de chimiothérapie, puis on n'est pas des spécialistes de la chimiothérapie, mais on pourrait dire qu'il y a des graduations, si vous voulez, dans la chimiothérapie. C'est-à-dire que vous avez un premier degré que vous allez utiliser dans tel niveau, mais si jamais vous vous rendez compte que votre patient a un facteur de risque de récidive plus élevé, ben vous n'allez pas prendre le premier degré, mais vous allez prendre une chimiothérapie un peu plus importante et plus efficace. Donc là aussi, dans la recherche, c'est de mieux essayer de déterminer les patients, là aussi à risque, mais ce coup-ci à risque de métastase ou de récidive.
Ou de récidive. On va vraiment prendre la dernière question, monsieur.
Oui. J'ai noté tout à l'heure que lorsque l'on s'intéressait aux antécédents familiaux, on ne prenait que l'affiliation directe, en gros, hein, ou en tout cas à même niveau de filiation. Donc père-enfant, et puis à partir du père, les frères, les sœurs. Bon. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi que lorsque l'on notait le facteur génétique, c'était donc qu'il y avait quelque part dans les gènes un élément qui était considéré comme l'élément favorisant. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité alors de rechercher dans les gènes les éléments favorisants ?
C'est ce que je disais.
C'est ce que vous disiez.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà dans la recherche des antécédents pour vérifier si une lignée.
On le fait.
Oui. Parce que si vous voulez, j'en étais moi uniquement à la relation père-enfant.
Non, oui.
Il y a une réponse à apporter, c'est qu'il y a une tumorothèque qui s'est créée. C'est-à-dire qu'actuellement, on demande à chaque patient qui est opéré aujourd'hui, et il y a encore quelques mois, s'il est d'accord pour qu'on garde une partie de sa tumeur qui n'est plus nécessaire pour lui au diagnostic ou à la thérapeutique, dans l'objectif que ultérieurement des tests se développent et que peut-être lui, mais en tout cas ses descendants, puissent bénéficier, si le cas était échéant, pour que les nouvelles thérapeutiques puissent s'appliquer. Et en plus, cette partie de tumeur conservée peut être utilisée pour de la recherche d'éprouvette fondamentale pour faire progresser tout le monde. Alors c'est vrai que il y a également des recherches. Alors c'est quand même deux mondes différents, les cancers, je dirais, familiaux, voilà, du colon familial, ouais, où on sait pertinemment que la perturbation des gènes, la stabilité du génotype va être influent, et le cancer sporadique, c'est-à-dire au hasard de la population, où là on ne trouvera pas forcément la mutation génétique sur tel chromosome comme les autres, où on essaie de trouver des facteurs prédisposants dont on parlait tout à l'heure, qui, ces gens-là, constituent la très grande majorité des cancers coliques.
Et là, oui. Et vous nous rappelez quelque chose qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il y a des consultations d'oncogénétique que l'on fait, quand justement, comme le dit Jean-Pierre, on se rend compte qu'il y a un risque familial élevé. D'où ces fameuses maladies, la polypose familiale et puis les HNPCC, alors, qui veut dire en fait que ce sont des cancers héréditaires sans qu'il y ait de polype. Et là, on envoie les patients et on fait faire une consultation d'oncogénétique à toute la famille proche.
Mais ça, voilà. C'est 4% des cancers.
Voilà.
exactement.
Chez 4% des cancers, on connaît les anomalies génétiques, on peut les rechercher chez la personne et les descendants. Voilà. Mais chez tous les autres cas, on sait qu'il y a une prédisposition familiale, donc probablement des anomalies génétiques, mais elles sont tellement nombreuses et non identifiées actuellement qu'on ne peut pas, par une prise de sang, savoir si oui ou non vous êtes prédisposé pour ce cas-là.
Alors sur la tumeur, par contre, on peut trouver des mutations, marqueurs de membrane cellulaire qui sont prédictifs de l'efficacité ou non de la chimiothérapie. Et on peut savoir maintenant si un certain type de chimiothérapie va marcher ou a un potentiel de marcher ou non sur la cellule cancéreuse. Pour les nouvelles molécules dont on parlait tout à l'heure, qui détruisent soit directement, mais c'était les anciennes chimiothérapies, soit par... mort programmée en s'introduisant dans le fonctionnement cellulaire et en la faisant exploser secondairement, un peu les grenades de l'intérieur qu'on met en place et on attend qu'elle rentre bien dans cette grenade dans les cellules tumorales pour faire exploser la tumeur.
Ce sera votre dernier mot, Jean-Pierre. Merci. Juste une petite chose quand même. Le sujet des cancers sera de nouveau abordé lors d'une prochaine conférence du Pôle Info Santé. Ce sera au mois d'avril, donc 2009, et ce sera lié à l'ouverture du pôle régional de cancérologie. Mais auparavant, il y aura une prochaine conférence le 12 février et le sujet sera la mémoire. Donc j'espère que vous n'oublierez pas la date. Notez-la. Merci beaucoup à tous et n'oubliez pas le questionnaire d'évaluation que vous avez dans vos documents. Merci.
Bon, c'est bon.